соотечественники, сограждане.
Chers compatriotes, chers concitoyens, j'arrête mes activités en tant que président de l'Union soviétique.
Rideau. C'était le testament politique de Gorbatchev, l'annonce officielle de sa démission il y a tout juste une heure à la télévision russe, puisque là-bas, plus rien n'est soviétique. Avec nous, Ulysse Gosset, en direct de Moscou, dernières heures de Gorbatchev au Kremlin.
Gorbatchev est apparu sur tous les écrans, non plus du pays, mais des pays qui composent maintenant l'ex-URSS. Et puis nous venons d'apprendre, Patrice Bertin, oui, que le drapeau rouge qui flottait sur la principale coupole du Kremlin, eh bien, ce drapeau a été amené il y a une demi-heure environ. C'est l'emblème russe qui va bientôt le remplacer, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de drapeau au sommet du Kremlin.
Bienvenue au 116 rue Albert-Londres. Il y a des grands porteurs qui accourent au risque de leur vie partout où l'on fait parler l'artillerie. Il y a ceux qui choisissent l'immersion sur un lieu ou dans un sujet pour faire entendre l'écho de réalités qui les touchent et auxquelles nos sociétés restent sourdes. Il y en a d'autres, enfin, qui choisissent d'explorer les recoins du monde, ces zones qui échappent à la raison mais pas à la caricature et qui pourraient former, une fois réunis, un continent à part entière que l'on appellerait absurdie. Le photojournaliste suisse Nicolas Righetti s'intéresse depuis longtemps, et de plus en plus, nous dit sa biographie, aux figures politiques mégalomanes et totalitaires. Cet intérêt l'a conduit plusieurs fois en Corée du Nord, celle du dirigeant suprême Kim Jong-il, au Turkménistan, du Turkmenbashi Saparmurat Niyazov, en Syrie, il a publié la galerie de portraits en affiche du sanglant dictateur syrien Bachar al-Assad. Dans cette émission, nous parlerons de l'image et de la mise en scène politique poussée à son paroxysme. Le dernier grand reportage photographique en absurdie de Nicolas Righetti l'a mené dans un pays qui n'existe pas. Il n'existe pas faute d'une reconnaissance internationale. Ce pays, c'est la Transnistrie, un long et mince territoire de l'ex-URSS coincé entre l'Ukraine et la Moldavie. Les photos que Righetti y a prises prêteraient à sourire si cette bande de terre peuplée officiellement de pro-russes, sorte de musée du soviétisme, n'était pas soupçonnée d'être une plaque tournante du trafic d'armes. Dans un instant, suivez votre guide en absurdie. Il est photoreporteur, c'est Nicolas Righetti. Vous êtes au 116 rue Albert-Londres, vous êtes sur France Inter. Nicolas Righetti, quand on est photojournaliste et que l'on se rend dans des endroits aussi peu accueillants, a priori, que la Corée du Nord, le Turkménistan, la Syrie ou même la Transnistrie, le fait d'être citoyen suisse rend-il le travail plus facile ?
C'est une bonne question. Bien sûr que oui, c'est vrai que ce passeport suisse, même si actuellement la Suisse, surtout au niveau bancaire, est attaquée de toutes parts, hein, tu as la France avec, c'est vrai que le passeport suisse a quand même encore cette neutralité au niveau de l'Europe, cette neutralité au niveau du monde, et c'est vrai que ce passeport suisse permet en fait de pouvoir avoir accès peut-être plus facilement à des zones qui sont en conflit, à des zones qui sont retirées, et c'est vrai que ça peut être une aide.
Et pourquoi ces pays-là, la Corée du Nord, le Turkménistan, la Transnistrie, pourquoi ? Ça répond à une démarche particulière.
C'est une démarche particulière. Donc j'ai été d'abord, j'ai voulu en fait comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. C'est-à-dire derrière en fait...
Derrière ou devant ?
Derrière d'abord. D'abord derrière. D'abord comprendre un petit peu comment vivent les gens sur place dans un pays qui est totalement fermé au monde. Et en fait, je voulais comprendre un petit peu comment ça fonctionne et comment ils se sont en fait barricadés et comment ils font pour naître, en fait, pour vivre en fait dans une époque globalisée mais qui sont totalement fermés sur eux-mêmes. Et c'est ça que mon intérêt était d'abord de découvrir un petit peu ça, ces pays. Là,
mais quand on regarde vos photos, quand on feuillette vos albums, on voit surtout un décorum.
Oui, alors bien sûr que par la suite, je me suis intéressé surtout au décorum du pouvoir. Et c'est vrai que je me suis petit à petit intéressé au pouvoir lui-même, c'est-à-dire aux dictateurs. Et ces dictateurs se retrouvent souvent dans des lieux qui sont totalement fermés sur eux-mêmes, pour que la dictature puisse prendre vraiment racine le plus profondément possible. Et c'est ce qui m'intéresse. Tout mon travail photographique depuis plus de 25 ans travaille sur l'imagerie du dictateur et aussi justement sur cette propre propagande exagérée de la dictature.
Alors on a parlé de quelques pays, la Corée du Nord, le Turkménistan, la Transnistrie. Il y a d'abord eu la Chine.
Oui, alors bon...
Et pas dans des circonstances
certes,
tout à fait anodines.
Alors j'avais 20 ans,
Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie, comme disait Paul Nizan.
J'avais 20 ans, je me baladais avec un ami et j'avais 30 films en noir et blanc, je me souviens très très bien, avec un Nikon en bandoulière. Et on voyageait, on est arrivé d'abord au Pakistan, j'avais connu un ami au bord du lac de Genève où je vis.
Et vous avez quoi, 47 ans maintenant ?
47, ouais, voilà, bien, j'ai eu 47 ans. Voilà. Et donc, j'ai voyagé du Pakistan, j'ai été directement en Chine, donc j'ai passé ce col fameux, et on était un petit peu les premiers. Et en Chine, justement, je prends le train pour aller à Pékin, et je rencontre en fait des étudiants chinois qui avaient pratiquement le même âge et qui me disaient « Voilà, maintenant, il y a des manifestations sur Tiananmen, on était en 1989, on y va, ils avaient des drapeaux, des slogans, des choses. » Et moi, quand j'avais 20 ans, j'étais pas totalement politisé et c'est là où j'ai eu en fait mon premier baptême politique.
Et pas totalement journaliste non plus.
Pas du tout journaliste non plus. J'étais qu'un passionné de photographie et en fait je suis arrivé sur cette place Tiananmen nu, si j'ose le dire, c'est-à-dire ayant très peu d'expérience et j'ai pu en fait vivre pendant 3 semaines en dormant avec les étudiants. J'ai pu en fait avoir des cours, si j'ose dire, accélérés de politique. On me demandait aussi beaucoup qu'est-ce que c'est la démocratie ? Quelle était la démocratie en Suisse ? Donc j'ai dû en fait m'affirmer aussi, trouver en fait...
Si un jour il y a des votations en Chine, on saura d'où ça vient, Nicolas Righetti.
Enfin bref, c'était un moment pour moi, en fait, ça a été en fait mon premier choc culturel politique.
Et vous avez gardé les photos ?
Oui, alors j'ai été assez intelligent déjà à ce moment-là, heureusement. C'est qu'en fait, j'ai bien senti que la situation allait commencer à dégénérer. J'ai été à l'ambassade suisse, j'ai été donné à mes films, mais je suis resté sur la place Tiananmen quand l'armée est arrivée. Je me suis fait prendre, j'ai 18 heures d'arrestation, bref.
Quand même.
Oui, quand même. On m'a même expulsé de Chine.
On ne vous a pas frappé ?
Si, on m'a frappé, oui.
D'accord, belle expérience à 22 ans quand même, hein, pour un jeune passionné de photographie, pas encore journaliste. Comment parvient-on à pénétrer des endroits pareils, au point de pouvoir y travailler, en rapporter des photos, des films, exceptons la Chine, parlons des autres endroits, le Turkménistan, la Corée du Nord. Est-ce qu'il faut faire preuve de stratagèmes ? Est-ce qu'il faut développer des stratagèmes pour réussir à séduire un diplomate qui va vous accorder le visa qui vous permettra d'aller travailler à l'intérieur de ce pays ?
C'est exactement ça. Au départ, c'est vrai que pour la Corée du Nord, mais à l'époque aussi de Tiananmen Square en 1989, souvent entre deux manifestations, j'allais à l'ambassade demander le visa nord-coréen pour pouvoir y rentrer.
Déjà
là. Mais déjà, j'ai vite compris que à cette époque, aucun touriste ne pouvait rentrer et qu'il fallait trouver justement une idée pour que ça leur plaise en fait. Il fallait pas seulement arriver en tant que photographe et prendre des images, mais il fallait donner quelque chose. Il faut trouver un échange. Et l'échange, je l'ai trouvé petit à petit en me disant on va faire un échange culturel entre la Suisse et la Corée du Nord. Et ce qui a très bien fonctionné.
Finaux quand même. Hein. Et vous, dans votre échange, qu'est-ce que vous avez apporté ? Vous aviez une corbeille de mariée. Il y avait quoi dedans lorsque vous êtes arrivé à Pyongyang ?
Alors, il y a eu plusieurs choses. D'abord, j'ai apporté quelques films que j'avais réalisés à l'époque, des beaux-arts que j'avais faits sur Genève. Et j'ai apporté un film sur la crucifixion que j'avais réalisé au Mexique. Je trouvais ça assez drôle de présenter le Christ dans un pays totalement athée. Par la suite, pour le 15e anniversaire...
Ils ont dû être surpris, les Nord-Coréens, quand ils ont
vu ça. Très surpris, ça ne savait pas qui était Jésus. Et ça, c'est vrai que c'était une très grosse difficulté. Hein. Ça
et chez eux, le Dieu est vivant et on ne le crucifie pas. Il n'en est pas question.
Exactement. Et ils n'ont pas du tout apprécié ce film. Ils ne comprenaient pas pourquoi on osait, en fait...
Pourquoi le héros mourait sur la croix ?
Exactement. Et puis une certaine aussi, l'imagerie extrêmement violente. Certains étudiants nord-coréens me disaient « Mais comment vous osez montrer une image pareille aux enfants ? C'est pas possible, c'est quand même terrible ce que vous faites en Occident. » Et ça c'est vrai que tout d'un coup, j'étais là pour dénoncer bien sûr de la Corée du Nord et son régime implacable. Et tout d'un coup, on me renvoyait une image personnel et culturel, en me disant, mais c'est vous, dites voir, ce que vous proposez aux enfants, votre idée religieuse est violente.
Vous y avez fait plusieurs séjours.
J'ai fait 5 séjours. 4 séjours en Corée du Nord.
Et en rentrant de Corée du Nord, lorsque vous avez publié vos photos, les autorités nord-coréennes ont réagi comment ?
Alors, j'ai réalisé un livre en 2003 qui s'appelle « Le dernier paradis » en Corée du Nord. Et c'est vrai que l'ambassadeur, basé à Berne, la capitale de la Suisse, a tout de suite vu le livre, a vu quelques articles. J'étais même une fois passé sur CNN, etc. Alors tout d'un coup, ça prenait une certaine ampleur et m'a demandé... de le voir. Alors, on s'est vu catimini, non pas à Genève ni à Berne, mais à Lausanne, dans une ville à 65 km, pas loin, dans un bistrot, un petit peu caché. Et là, il m'a carrément dit directement, voilà, vous êtes toujours l'ami de la Corée du Nord, mais vous y étiez au chômage, les Sud-Coréens ont demandé, vous ont donné beaucoup d'argent et ont demandé de faire un livre qui soit pas tout à fait pour en fait le gouvernement. Enfin bref, vous n'y êtes pour rien, vous restez l'ami de la Corée du Nord et vous serez toujours invité en Corée du Nord.
Voilà, vous deviez admettre en quelque sorte que vous aviez été manipulé par la Corée du Sud, quoi.
Exactement. Mmh. En deux mots, ça c'était ça. Et en fait, j'ai joué le jeu comme je joue en fait en Corée du Nord le jeu. Malheureusement, j'ai dû jouer ça sur mes propres terres, qui est toujours un petit peu assez complexe. Mais en même temps, j'ai compris que il fallait aussi lui qu'il se protège.
Je précise que vous travaillez au sein d'une agence photographique, c'est l'agence genevoise Réseau.ch.
Tout à fait.
Et que vos photos ont été publiées dans les pages de pas mal de journaux à travers le monde, le New York Times, le New Yorker, la Repubblica, Le Monde, Le Point, L'Express, vous m'en parliez avant cette émission. Et bien sûr, dans la presse de votre pays, la Suisse, vos photos ont aussi fait l'objet d'expositions un peu partout en Europe, à Barcelone, à Lyon, à Anvers, à Zurich, à Vienne et aussi chez vous, à Genève, évidemment. Vous n'êtes pas un photographe de guerre, comme le sont certains de vos confrères, Nicolas Righetti, vos confrères que je reçois aussi dans cette émission. Ça ne veut pas dire que vos reportages sont sans risque. Vous évoquez la Chine où vous avez été arrêté et tabassé en 89, mais vous n'étiez pas encore journaliste. Et vous gardez notamment du Turkménistan des souvenirs assez mitigés.
Oui, bon, c'est peut-être le travail où j'ai pris le plus de risques. Ça reste une région totalement fermée. C'était à l'époque, en 2003, à l'époque de Niazov, où il y avait vraiment cette dictature assez forte.
Turkmenbashi.
Turkmenbashi. Exactement. Turkmenbashi, ça faisait appeler le père de tous les Turkmènes. Et ça, c'est vrai que j'ai pu là aussi y rentrer en proposant mes services pour pouvoir en fait visiter tous les hôtels, pour pouvoir emmener des touristes suisses.
Mission touristique.
Mission touristique.
Voilà le stratagème.
Alors, toute la journée, c'était assez drôle. J'avais un guide turkmène, et j'allais visiter en fait tous les hôtels et je faisais les photos de tous les lits, ce qui me paraissait totalement absurde. Mais dans le projet, ça jouait bien. Et puis à côté de ça, je prenais des photos du dictateur qui était multiplié à l'infini à travers une statue,
et oui, le culte
debout,
de la personnalité,
etc. Enfin, il est parti. Enfin, il est partout, quoi, sur les savons, sur les paquets de spaghettis. Enfin, bref.
Pas sur le papier toilette.
Non,
ça n'oublie.
Ça non. Mmh. Et donc. Et donc voilà, oui, je ne sais pas actuellement comment se trouve le régime, mais c'est un régime où, dès qu'on avait un gros appareil photo, je travaillais là avec un 6-6, gros Hasselblad, moyen format, donc j'étais invisible, bruyant, et c'est vrai que j'ai eu énormément de problèmes. La première fois où j'ai été au Turkménistan, une semaine, je me suis fait arrêter 17 fois.
Rien que ça? Ouais, vous allez entrer dans le Guinness des records si ça continue comme ça. Le Turkménistan, Nicolas Righetti, vous y êtes allé donc un certain nombre de fois en 2005 et 2006, et puis il y a eu 2007. Là, vous avez laissé derrière vous l'Asie centrale pour vous rendre au Moyen-Orient afin de tirer le portrait de cet homme.
بس ما في داعي لنعمل تعزاية فلو كان
C'est la voix de Bachar al-Assad, le président syrien. Vous l'avez rencontré, Nicolas Righetti ?
Non, pas du tout.
Mais en revanche, vous avez rencontré très souvent son portrait dans les rues syriennes.
Oui, exactement. J'étais en fait au début 2007 et c'était en fait le référendum. 7 ans après que Bachar soit au pouvoir, il a tous les 7 ans, il y a un référendum. Et puis, c'est vrai que l'iconographie, la photo de Bachar était multipliée là aussi à l'infini. Et j'ai été en fait très surpris de voir que c'était vraiment très soviétique. Ça m'a rappelé un petit peu la Corée du Nord, ça m'a rappelé aussi le Turkménistan. Et là, j'ai fait tout un travail plutôt dans la rue, vide, avec justement cette iconographie, le portrait de Bachar partout.
Et vous acceptez comme journaliste, là, cette fois ?
Écoutez, là, j'ai eu un visa, en fait, mais je n'ai pas trop triché. Je leur ai dit que j'étais photographe. Bon, photographe de mariage, photographe studio, ce qui passait quand même mieux. Mais,
il y avait un petit stratagème, quand même.
Exactement. Mais néanmoins, je me suis fait arrêter 3 fois, mais c'était toujours assez avec beaucoup de politesse, avec des gens en civil qui parlaient très bien anglais. Et c'est vrai que mon passeport suisse m'a beaucoup aidé.
Votre reportage en Syrie, c'est ce que vous appelez un reportage sur l'image d'une répression souriante. Et on peut y penser quand on entend à l'instant Bachar al-Assad ricaner un petit peu au moment de son investiture, la dernière d'ailleurs, hein, puisqu'il a été réélu à la présidence de la Syrie. Vous n'y êtes pas retourné par la suite, ça c'était en 2007, vous n'y êtes pas retourné?
Non, je ne suis jamais retourné. Ça c'est vrai qu'à l'époque, il était encore considéré comme un réformateur. Et quand je suis revenu en 2007 pour vendre en fait mon reportage, il y a même certaines rédactions en Suisse qui m'ont dit « Oui, mais tu vois un dictateur partout, Bachar el-Assad, c'est d'abord un réformateur, il faut que tu arrêtes de retrouver tout le temps des dictateurs partout. » Et pourtant, moi, j'avais un peu l'impression, en tout cas visuellement, je ne dis pas politiquement, mais visuellement, il était réellement, c'était vraiment la manière qu'utilisaient les dictateurs soviétiques et de Corée du Nord et du Turkménistan.
Le photojournaliste Nicolas Righetti est l'invité du 116 rue Albert Londres sur France Inter. Et sur France Inter, les Beatles nous ramènent en URSS, back in the USSR.
Gorbatchev a échoué, il n'y a plus d'URSS, il n'y a plus d'unité des républiques, l'éclatement du pays est devenu une réalité. Ce sont grosso modo les termes employés hier par les présidents des trois républiques slaves qui ont décrété la fin de l'Union soviétique comme, je cite, sujet de droit international.
Le photojournaliste Nicolas Righetti est toujours l'invité de 116 rue Albert Londres. Et là, ce sont les échos d'un monde qui s'est désagrégé à la fin de l'Union soviétique, Nicolas Righetti, et le morcellement de ce qui constituait jusqu'en 91 le plus grand pays du monde. Nous venons d'entendre tour à tour l'hymne soviétique interprété par le chœur de l'armée rouge, puis l'hymne de la Moldavie indépendante, c'était la seule république de langue latine de l'URSS, et enfin l'hymne de la Transnistrie, ce pays qui n'existe pas. Transnistrie, un pays qui n'existe pas, c'est donc le titre de votre dernier album photo, Nicolas Righetti, publié chez Favre.
Favre, exactement.
Voilà. En France, et puisqu'il y a aussi une adaptation en anglais, pour les pays anglo-saxons.
Exactement.
Pourquoi dites-vous, Nicolas Righetti, que ce pays n'existe pas ?
Bah, tout simplement, pour être très franc avec vous, il existe. Il existe parce que il a tous les attributs. Il a la monnaie, le passeport, son président.
Un hymne, on vient de l'entendre.
Un hymne, son armée. Mais néanmoins, il n'existe pas. Pourquoi ? Parce que simplement, l'ONU ne l'a pas reconnu. Et les nations occidentales non plus. Et même la Russie, qui a encore des contingents russes, l'armée russe est encore présente. Elle subventionne aussi ce pays à plus de 75%. Mais personne ne l'a reconnu.
Il est reconnu par trois petits territoires, le Haut-Karabakh, l'Ossétie du Sud,
exactement.
L'Abkhazie, c'est ce que les persifleurs appellent la CEI, la Communauté des États Inexistants.
Exactement.
Voilà. On va faire un petit peu d'histoire, si vous voulez bien, et de géopolitique, Nicolas Righetti. Donc, la Transnistrie, c'est une bande de terre de 220 km de long, moins de 50 de large, même quelquefois, ça fait 4 mètres, je crois, à certains...
Alors, 10
km. 10
km,
d'accord, vous avez pu vérifier sur place. Je vous fais confiance, c'est sur la rive orientale d'un fleuve qui s'appelle le Dniestre. 555 000 habitants, selon les statistiques officielles, la capitale est Tiraspol. Et ce territoire fait théoriquement partie de l'espace moldave. Mais ses habitants, qui sont majoritairement slavophones, c'est-à-dire d'origine russe ou ukrainienne, refusent d'avoir pour langue nationale le roumain que parlent les Moldaves. Ils sont aidés par la Russie, dont les troupes, vous l'avez dit, stationnent toujours en Transnistrie. Et oui, c'est comme si on imaginait des troupes américaines ou européennes au beau milieu de la Fédération de Russie aujourd'hui. C'est quand même assez étrange. Et les Transnistriens, avec l'aide de Moscou, ont fait la guerre aux Moldaves en 92 pour qu'on leur fiche la paix. Donc, ça fait 20 ans que ce pays n'existe pas. Dans ce pays, Nicolas Righetti, pays qui n'est pas une grande destination touristique, je suppose, qu'est-ce qu'on voit quand on s'y rend ?
Alors... D'abord, il faut passer les frontières. Alors, c'est très intéressant parce que il y a trois frontières à passer pour arriver en Transnistrie. Et c'est déjà pas mal pour un pays qui n'existe pas. D'abord, on arrive, on a la première frontière qui est celle de la Moldavie. Ensuite, 10 mètres après, on doit s'arrêter de nouveau en voiture et il y a la frontière russe. Mais là, bien plus armé, avec un tank sur la gauche, des soldats armés de Kalachnikov.
Alors que ce n'est pas une vraie frontière russe, puisque la frontière russe est beaucoup plus loin.
Bien sûr.
Elle est au-delà de l'Ukraine.
Exactement. Et c'est en fait les soldats russes qui protègent les frontières de la Transnistrie. Et enfin, on arrive à la vraie frontière, si j'ose dire, et pour certains de la fausse. Bref, on arrive à la frontière transnistrienne, où là, il faut sortir de la voiture, obtenir un pass qui dure 24 heures, et on a le droit de visiter pendant 24 heures la Transnistrie.
Cendrillon, première couche, deuxième couche, troisième couche. On compare souvent la Transnistrie aux états d'opérette qu'on lit dans Tintin, comme la Cile d'Avis ou la Bordurie. Mais un voyage en Transnistrie, ça rappelle aussi, surtout Tintin, au pays des soviets. Dans votre album, on voit par exemple une photo qui représente en trompe-l'œil une voiture de police postée sur le bas-côté de la route, juste derrière un arbre. C'est une voiture en deux dimensions, c'est du carton-pâte, quelque chose comme ça, posé sur une sorte de tréteau métallique ou de bois, c'est fréquent là-bas,
Nicolas Righetti ? Oui, alors ça c'est très fréquent. Ça c'est clair que la police est partout, est omniprésente, omnipotente. Hein. Ça c'est vrai qu'il y a extrêmement peu de voitures, mais avec mon guide, On se faisait souvent arrêter par de la police, toujours pour des motifs où on roulait trop vite, ce qui n'était pas du tout vrai. Enfin bref, et c'est vrai que la police est très présente, et non seulement présente physiquement, mais aussi présente, comme vous l'avez dit, avec des leurres. Et c'est très étonnant, oui.
Ouais. Il y en a d'autres comme ça, autres que les voitures de police, des leurres ?
Non, pas vraiment.
Ouais. Et dans la voiture de police, il y a même un fonctionnaire de police qui est dedans, un leurre évidemment.
Oui.
Exactement. Sur le drapeau transnistrien, la faucille et le marteau, frappé de l'étoile rouge, le Parlement appelé Soviet suprême, est-ce encore un pays communiste au sens où l'entendaient autrefois les dirigeants des républiques d'Union soviétique ?
Visuellement, oui, mais dans la pratique, non.
On trouve aussi des statues de Lénine dans le pays.
Oui, alors partout. Oui,
mais pas seulement, il y a aussi des portraits de Poutine. J'ai lu ça dans votre livre, des portraits de Poutine dans les bureaux.
Oui, alors ben bien sûr que Poutine, c'est quand même, il faut être clair, hein, c'est le boss. C'est celui qui dirige en fait en sous-main de la Transnistrie depuis plus de 24 ans. Et donc, bien sûr que c'est le représentant, en fait, indirectement, de cette région.
Voilà donc un pays sans aucune reconnaissance internationale. Donc, comme vous le dites, un pays qui n'existe pas. Peuplé en majorité de slavophones, résolument pro-russe. Il a un président, Yevgeny Shevchuk, qui a même déclaré 2 jours après le référendum qui a conduit en mars au rattachement de la Crimée à la Russie, qu'il voulait à son tour que la Transnistrie devienne russe, alors que plus de 50% des exportations transnistriennes partent vers l'Union européenne. C'est pas le moindre des paradoxes. Il faut dire que sans le Kremlin, il n'y a plus de Transnistrie, c'est un pays sous perfusion financière russe. Mais en Transnistrie, un groupe économique, disons plutôt un consortium, qui fonctionne bien. Il a pour emblème, c'est pas l'étoile rouge, c'est une étoile de shérif, elle est jaune, à 5 branches. C'est d'ailleurs son nom, shérif. Écoutons, lu par Jérôme Boulet, cet extrait du livre Transnistrie, la poudrière de l'Europe, que notre confrère Xavier Deleu a publié en 2005 aux éditions.